c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range, range, range.
Il y en a plus. Oh non, il n'y a plus de café là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé là.
Les jours.
Ouais, ce casque qui marche pas. Mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip. Bip. Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez, les gars.
À tous,
on y va.
Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans notre vivement ce soir qu'on se couche du lundi 13 février. Au menu de cette émission de Radio Givré, une chemise à rayures maraîchère proposée par Elsa Decour avec Alain Fauconnier et Solange Lepage. On reste dans la thématique potagère avec les choux d'Elsa Gourmand agrémentés de quelques fadaises. Chloé n'est pas là cette semaine, mais avant de partir à Nantes, elle nous a laissé une tripounale toute chaude. Quant à moi, maintenant que c'est officiel... Ça y est, le doute n'est plus permis. Oui, chers amis, nous en sommes sûrs. Nous faisons partie d'une civilisation supérieure. Je me sens vraiment bien, mais alors, mais très bien.
Quand il y a un tourbillon médiatique de cette ampleur, comme il y en a eu par exemple sur le thème de l'indignation avec Essel, bon, eh bien, je ne peux pas m'empêcher, je dirais par devers moi-même, et je pense que tout le monde en fait autant, de se poser la question sérieusement. C'est vraiment, est-ce qu'on a tort, est-ce qu'on est un salaud parce qu'on considère que cette culture de la démocratie, et je prends démocratie au sens tocquevillien, c'est pas simplement le régime politique, c'est toute une culture. C'est une culture qui est à l'échelle humaine, pour reprendre le titre d'un livre de Léon Blum. Est-ce que cette culture qui enfin est à l'échelle humaine, cette culture de l'autonomie, hein, se donner à soi-même sa loi, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la politique, se donner à soi-même sa loi, mettre en scène la splendeur de l'humain plutôt que la splendeur du divin, comme c'est le cas dans la peinture hollandaise, est-ce que ça, cette culture de l'âge adulte, si je puis dire, est-ce que ça ne vaut pas plus, en effet, que les civilisations dans lesquelles, par exemple, tout simplement, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'œuvre littéraire? Arrêtons de nous couvrir la tête de cendre, c'est ridicule. Et oui, le Don Giovanni de Mozart, c'est supérieur au Tambourin d'Ambiquara.
Merci Luc Ferry. Le vent de l'enthousiasme et de la nouveauté souffle dans mon esprit, j'ai donc décidé de vous en faire profiter. Ouvrez grand les fenêtres, les yeux, les oreilles et le cœur avec des morceaux extraits de la compile des Inrock Objectif 2012, volume 2, qui nous donne un aperçu des albums sur le point de sortir. Et je commence très égoïstement par me faire plaisir avec Mathias, Babette, Michael, Eric, Guillaume et Stéphane. Mais ce morceau est-il vraiment supérieur au Don Giovanni de Mozart? Merde, j'ai pas réfléchi à ça.
Mon nom est Tom, et ma Tom Cloudman, le plus mauvais cascadeur du monde et de la galaxie. Tom, et ma Tom Cloudman, soleil y compris, et ma Tom Cloudman. Oh yeah! Plus facile à jeter qu'un origami, un oiseau en papier froissé qui aurait pris la pluie. Et Madame Cloudman, pas super ce héros sans pouvoir magique. Oh, je ne suis pas un super héros de comics, mais le bruit de mes os qui se brisent est assez comique. Dès que la raison a le dos tourné, Tom et Madame Cloudman est toujours prêt à exploser. Je vis comme une toupie de chair et de sang. Mon équilibre ne s'est maintenu qu'en mouvement. Et Madame Cloudman, je n'ai jamais su résister à ces souris douces qui, du haut de leurs souliers vernis multicolores, murmuraient des encore. Je m'étalais façon crêpe intégrale. Oh, je m'explosais façon pétard de carnaval. Mon nom est Tom et ma Tom Cloudman, le plus mauvais cascadeur du monde et de la galaxie.
Et c'est bien sûr Dionysos Cloudman, extrait du prochain nouvel album Bird and Roll, ou comment danser comme des oiseaux. Des oiseaux, il en sera question cette semaine, mercredi ou vendredi, on n'est pas encore trop sûr de la date. Et c'est Alain Hardy de la Ligue de protection des oiseaux de l'Aveyron qui nous proposera une émission spéciale pour les 100 ans de la LPO. Elsa Gourmand, tu es prête ?
Ouais.
C'est à toi.
Chou.
Falaise.
Bah pourquoi chou ?
Bah parce que feuille.
Ah !
On va changer un peu nos habitudes. Hein. On commence cette revue de presse avec une nouvelle chronique, celle de Benoît Garré, rédacteur en chef du Progrès. Et il nous présente l'édition de cette semaine.
Donc on a développé un gros papier donc, qui a été écrit par Christian Font et Fauconnier, Alain Fauconnier, qui décortique en fin de compte la population du parc des Grands Causses. Donc c'est assez imposant comme papier, mais il analyse la population du parc, comment la population du parc grossit alors qu'elle avait tendance à diminuer, et quelles sont les tendances pour les années à venir, les 30 années à venir. Donc c'est intéressant pour l'avenir et pour voir comment le pays va se repeupler, quoi, et avec qui.
C'est une étude donc démographique et un petit peu sociologique.
Aussi, ouais. Oui. Parce qu'on s'aperçoit que la population du parc grandit, non pas malheureusement par les naissances, mais par les gens qui viennent de l'extérieur. Donc c'est aussi une richesse.
Un autre sujet.
On a encore gardé en une cette semaine, parce que c'est un sujet très important et à plus forte raison en milieu rural, c'est les écoles qui sont encore mises à mal donc avec les suppressions de postes qui devraient intervenir, parce que de toute façon, la consigne donnée, c'est supprimer 25 postes. Donc il faudra qu'ils les trouvent, c'est ça le plus problématique. Donc là, pour le moment, il y a deux écoles qui sont fortement mobilisées cette semaine, enfin dans les semaines qui viennent de s'écouler, donc Rébourguil, qui ont traité ça d'une façon un peu, pas humoristique, mais un peu un pied de nez en faisant une vente aux enchères du demi-poste d'enseignant, de l'enseignante, donc qui doit être supprimée en septembre. Et à Saint-Cernin aussi, où il manquerait, donc avec les nouveaux barèmes, 5 ou 6 enfants. Et donc les élus du coin sont venus s'inscrire avec leur cartable à l'école primaire.
Il y a aussi un petit article sur l'école de la Cône.
Oui, l'école de la Cône aussi, oui, qui est aussi le même genre de difficulté avec des annonces de suppression de postes, d'une suppression d'un demi-poste. On a lancé une nouvelle rubrique aussi depuis quelques semaines, donc qui s'appelle la tournée des cantons. Donc c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'on est là pour annoncer les mauvaises nouvelles, mais qu'on ne parle pas de ce qui se fait de façon positive. Enfin, moi, je considère qu'on traite l'actualité avec la réalité de ce qu'on a en face. Hein, c'est le plus simple. Donc, on va dans chaque canton donc, qui sont couverts par le journal et on fait le tour des principaux élus, donc conseiller général, président de communauté de communes et maire du chef-lieu de canton. Et là, on fait le tour des grands projets de l'année et des années à venir, donc de ce qui va se faire, ce qui est en train de se construire, donc pour expliquer aux lecteurs ce qui se construit en ce moment, quoi. Cette semaine, c'est le canton de Cornus qui est à l'honneur. Et dernière chose, il y a une grosse inquiétude donc, qui est un peu latente. Donc ça fait plusieurs, ça fait déjà 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc l'école de musique a de plus en plus de difficultés à boucler son budget. Et là, à l'occasion de l'audition de l'école de musique de l'antenne de Saint-Afrique, il y a le directeur, Peter de Groot, a tiré un peu la sonnette d'alarme parce qu'au niveau départemental, il manque énormément d'argent pour arriver à boucler le budget, donc ça remet en cause le fonctionnement même du conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron, donc qu'on appelle plus simplement l'école de musique.
Vous retrouverez cette chronique de Benoît Garret, rédacteur en chef du Progrès, toutes les semaines. Allez, on ne perd pas les mauvaises habitudes avec les unes des quotidiens. D'une façon ou d'une autre, Sarkozy fait la une de plusieurs journaux, et oui. Hein. Le Figaro nous annonce béatement Sarkozy candidat cette semaine. On est content, hein. Le chef de l'État devrait annoncer sa candidature à la présidentielle dans les jours prochains. Quel scoop,
quel suspense.
Ah, on attend. On est content. L'UMA, pour sa part, dénonce le candidat jusqu'à l'extrême. Plus antisocial que jamais, le prétendant à sa propre succession se place ouvertement sur le terrain de l'idéologie lepéniste. Et enfin, pour le Parisien, Sarkozy joue son va-tout. Libé partage sa une entre la mort de Whitney Houston et la Grèce, avec ce titre « La Grèce à l'os », manifestant par dizaines de milliers dimanche, la population n'accepte plus d'être humiliée et pressurée par les partenaires européens. Marianne nous propose un numéro très intéressant cette semaine avec un dossier intitulé « La vérité sur l'état de la France ». Et ce qui rend ce dossier intéressant, c'est qu'il a été élaboré avec les économistes atterrés. Les économistes atterrés, c'est un collectif de chercheurs, d'universitaires et d'experts. Et il s'est fait connaître en 2010 en publiant un manifeste qui réfute les postulats de la finance. Le manifeste d'économistes atterrés, dont la quatrième de couverture, dit ceci. Les décideurs européens ont-ils appris quelque chose de la crise provoquée par les dérives de l'industrie financière? On peut en douter. Pour résorber les déficits provoqués par le sauvetage des banques et la récession, la Commission européenne et les gouvernements appliquent avec une vigueur renouvelée des programmes d'ajustement qui ont dans le passé démontré leur capacité à accroître l'instabilité économique et les inégalités sociales. Ces politiques de soumission au pouvoir de la finance mettent en danger l'avenir du projet européen. Atterrés par ce constat, nous avons pris l'initiative d'écrire ce manifeste. Voilà, donc c'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Les journalistes de Marianne se sont donc associés à ces économistes et ils ont été sur le terrain à la rencontre d'ouvriers, d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants. Les économistes atterrés ont livré en regard une grille de lecture qui permet de comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Au sommaire de ce dossier spécial, alors il y a une première partie sur le modèle français avec des chapitres sur la dépense publique, les inégalités, la politique familiale et notre système de santé. La deuxième partie porte le titre de « Une économie en panne » dans laquelle on trouve une analyse sur l'industrie, le rôle de l'immigration, sur l'emploi et sur la dette publique. Et la troisième partie s'intitule « Prépare-t-on l'avenir » avec des thèmes sur la jeunesse, l'enseignement supérieur, la recherche et la transition écologique. À découvrir donc dans Marianne.
Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con.
Les néocons. Alors les néocons, je ne sais pas si vous connaissez, c'est encore un article de Marianne qui s'intitule « Le retour des néocons ». Alors, ça se passe aux États-Unis. On les croyait à terre, ces néocons, mais la crise économique persistante a permis à ces nostalgiques de l'Amérique impériale de renaître. Leur cible, Barack Obama, qui ne porterait pas assez haut la bannière étoilée. Eh ouais. Qui sont-ils, ces néoconservateurs? Alors on apprend qu'ils sont issus de la gauche. Étonnant, hein? À l'origine, dans les années 30 et 40, il s'agissait de militants juifs et trotskistes, anti-stalinistes et ayant une foi viscérale dans les idéaux démocratiques de l'Amérique. Ils étaient tous démocrates. De 1950 à 1970, ils militent pour les droits civiques et pour la guerre au Vietnam. Ouais, je ne me trompe pas, c'est pour la guerre au Vietnam. Leur priorité étant de stopper l'expansion soviétique. Et ils s'opposent donc à la détente avec l'URSS, à la paix au Vietnam et à l'ouverture vers la Chine de Mao. Et dans les années 80, ces anciens militants de gauche revendiquent leur néoconservatisme et lorsque Reagan détruit, entre guillemets, l'Empire du Mal, ils y voient la renaissance d'un messianisme démocratique universel. C'est beau, hein? Et puis il y a le 11 septembre 2001 qui change tout. L'Amérique est en danger, il faut désormais traquer et punir tous ses ennemis. C'est l'heure de gloire du néoconservatisme et de ses dérives. En 2008, la défaite des Républicains, c'est un peu la leur et leur vision d'une Amérique obsédée par sa destinée, missionnée par Dieu pour apporter la démocratie au monde entier, en prend un coup. Mais voilà, aujourd'hui, leur adversaire alerte sur leur retour. Il y aurait même une nouvelle génération de néocons. Pour preuve, le Parti républicain reprend certains de leurs arguments, dont celui qui veut que l'Amérique soit la plus grande puissance destinée à étendre son influence sur le reste du monde. « Nous allons ramener l'Amérique », proclament les slogans de la campagne républicaine. L'obsession de ces néoconservateurs, la politique étrangère des États-Unis, qui ne peut être soutenue que par une puissance militaire sans rivale. Et c'est surtout à propos de l'Iran et de son programme nucléaire qui menace Israël que les néoconservateurs ont des rêves de guerre. Des rêves de guerre qui pourraient bien devenir réalité si l'on en croit le canard enchaîné et toujours Marianne. Beaucoup Marianne. Hein.
Il était pas mal ce numéro.
Il est bien, ouais. Il est bien, ouais. Des raids israéliens annoncés au printemps, titre le Palmipède. Ce sont des collaborateurs du Pentagone qui ont annoncé cette nouvelle qu'il faut prendre au sérieux. Des militaires et hommes politiques israéliens en ont fait récemment l'aveu à leurs interlocuteurs américains. Les faucons israéliens, qui ont le vent en poupe en Israël, affirment que Téhéran sera bientôt en mesure de produire sa première bombe nucléaire. Et Ehud Barak, ministre de la Défense, a expliqué que remettre à plus tard une action contre l'Iran, ce serait trop tard. Même son de cloche donc dans Marianne avec ce titre, Israël-Iran, chronique d'une guerre annoncée. Pour la plupart des Israéliens, cette attaque est une évidence et la seule inconnue porte sur la date de cette offensive. Ehud Barak, toujours lui, a même déclaré que cette guerre ne provoquera que quelques dizaines de victimes.
C'est une petite paille.
Voilà. Le Mossad, les services secrets israéliens, quant à lui, poursuit sa propre guerre. Depuis 2 ans, 5 savants atomistes iraniens ont été tués et on ne compte plus les cyberattaques contre les systèmes informatiques iraniens. Bref, tout est en place pour une petite guerre, mais selon bon nombre de commentateurs, une telle offensive embraserait toute la région et ne pourra que reporter d'un ou 2 ans le moment où les Iraniens disposeront de missiles qu'ils pourront équiper de têtes nucléaires.
La mère fait du tricot, le fils fait la guerre, et elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père ? Il fait des affaires. Le père, sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils ? Il ne trouve rien. Il ne trouve rien, son père fait des affaires, sa mère du tricot, lui la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue. La mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué. Il ne continue pas. Le père et la mère vont au cimetière et ils trouvent ça tout naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires. La vie avec le cimetière.
Familial de Prévert, c'est dit par Jean-Louis Trintignant. Je trouvais que ça allait bien, là.
Parfait, Elsa. Hein? Tu auras un bon point.
Merci.
2 ou 3, même, tiens.
Même plus, parce que là, on va finir avec quelques brèves joyeuses pour terminer. J'espère que ça va te plaire. Une histoire de chômeuse, d'abord. J'ai trouvé ça, c'était dans le Marianne de la semaine dernière. Mais il faut que je vous fasse part de cette petite perle. Danielle, 53 ans, éducatrice au chômage, indique aux responsables de Pôle emploi dans l'Hérault qu'elle pourrait se résoudre à accepter un travail hors de sa spécialité. Et Pôle emploi lui propose donc, quoi donc ? Un emploi de stripteaseuse.
Ah, ouais, 12, ça a de l'avenir.
Ouais, 12,99€ de l'heure pour poser seins nus dans une boîte de nuit.
Ah non, elle se fait avoir. Plus.
Danielle, elle proteste, hein. Mais Pôle emploi lui a répliqué qu'il s'agit d'une offre régulière. On aimerait connaître les offres pour les hommes.
Ah non, mais attends, c'est vraiment un bon créneau. T'as pas vu justement dans Marianne le dossier sur Zaya, cadeau d'anniversaire de Ribéry ? Moi, je pense que c'est un bon créneau. C'est peut-être nous qui nous trompons, Elsa. Écoute. Hein.
Ouais.
Stripteaseuse, oui,
on doit pas être à la page.
Non, on est un peu has-been,
ça
je
fait,
pense.
On est has-been, ouais. Ça fait partie de la civilisation supérieure.
Ça doit être ça.
Ça doit être ça. Nadine Morano, on peut pas s'en passer de Nadine Morano, c'est dans le canard.
Elle fait du striptease.
Ah, ça lui irait peut-être bien, parce que là, Nadine Morano, qui pour le moment en tout cas est ministre chargée de l'apprentissage, explique combien son entourage souffre de sa marionnette au guignol de l'info. « Maman n'a plus Canal+, je l'ai interdit », dit Nadine. « Quant à mes enfants, ils seraient atteints s'ils me verraient atteinte. »
Ouh.
Sic, hein, je recommence. « Quant à mes enfants, ils seraient atteints s'ils me verraient atteinte. » C'est bien, hein, il faut qu'elle développe l'apprentissage de la grammaire, Nadine. Et puis toujours la même, qui, voulant avertir Christian Estrosi des propos discourtois tenus contre lui par le Premier ministre, lui a envoyé ce texto. « Attention, Fillon te chie dans les bottes !» qu'elle a adressé par erreur à Fillon.
La technique.
Voilà, la technique, ça réclame aussi un apprentissage. Et puis, on va finir avec la palme de la bêtise, qui revient à Valérie Pécresse. Et oui. C'est Marianne qui a reçu un mail et qui a d'abord cru à un canular, mais après vérification, cette information s'est avérée tout à fait vraie. La scène se passe à l'Assemblée nationale le 2 décembre 2011, lors du débat sur le projet de loi de finances rectificatives. 2 décembre 2011, on est en hiver, hein. On sait qu'en général, en hiver, il fait froid. Cet après-midi-là, Valérie Pécresse, ministre du Budget, présente un amendement destiné à soutenir les communes pour l'acquisition de gilets pare-balles destinés à équiper les polices municipales. Jusqu'ici, rien de grave, nous dit Marianne. Mais le dialogue devient surréaliste quand la ministre propose, avec une bonne dose de cynisme, de prélever 2 millions d'euros sur les excédents du fonds d'aide au relogement d'urgence. Stupeur de l'UMP, Gilles Carré, rapporteur général de la commission des finances, allait prélever de l'argent destiné au relogement d'urgence pour financer des gilets pare-balles, même si ce sont ceux des polices municipales. Non, dit-il. Mais Valérie s'accroche. Et puis elle argumente en plus. Les excédents du FARU seraient, dit-elle, mieux utilisés dans le cadre de l'acquisition des gilets pare-balles. Par balle, on se pince. Cette proposition est invraisemblable, fulmine le secrétaire de la commission des finances, Jean-Pierre Brard, apparenté communiste. Si encore, madame la ministre, vous aviez proposé, compte tenu de la situation dramatique des SDF, de troquer une partie des crédits pour le relogement d'urgence contre des couvertures chauffantes, j'aurais compris, mais contre des gilets par balle, non. Bon, bref, l'amendement n'a pas été retoqué. A été retoqué. Voilà, c'est un peu fort de café, c'est un peu gros, on croit
rêver. C'est tellement gros que moi, j'en reste. Je me dis, c'est pas possible.
On en reste quat. Et donc, pour clore cette revue de presse, une citation d'Einstein qui est appropriée à cette dernière brève et à bien d'autres déclarations récentes de personnalités politiques. Einstein qui disait : deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue.
Elsa, non, tu n'arriveras pas à me faire tomber de mon petit nuage. Contre toute attente, je vais continuer à jouer l'ingénue, à me voiler la face et à m'enthousiasmer encore et toujours pour des petits riens. Une mésange bleue perchée sur le rebord de ma fenêtre, l'odeur des crêpes le dimanche après-midi, la tête de Philippe qui a dû se lever plus tôt que d'habitude aujourd'hui et qui est là, fidèle au poste. Alors pour lui faire plaisir, le premier album de la semaine, l'Orchestre National de Barbès.
بيبها راني القاسي وقيت
n'est pas du Mozart, c'est de l'Orchestre National de Barbès, Schkoun, extrait de leur tout nouvel album pour accueillir Elsa Decour qui est là. Salut Elsa.
Salut.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Centrafrique.
L'association Solitaire a été créée en 2010 par 6 communes d'Aveyron, Rodez, Millau, Saint-Affrique, Decazeville, Aunay-le-Château et Cap-de-Nac. Leur démarche, fournir à leurs consommateurs une nourriture saine et de qualité, mais aussi contribuer à l'économie locale. Livraison pour les cantines scolaires, les foyers de logement et les hôpitaux. En tout, quelques 700 000 repas sont concernés chaque année. Solange Lepage, responsable de l'association Solitaire sur Saint-Affrique, nous rappelle dans quelle perspective ont été créées cette association.
Dans un but précis, pour mieux manger, faire que les enfants aient une alimentation plus équilibrée, plus en accord avec les saisons, plus biologique dans la mesure du possible, et des produits de qualité. Avec nos cuisines qui sont en régie par les mairies, c'est les seuls du département d'ailleurs, qui sont. C'est pour ça aussi qu'on a pu monter cette association avec ces 6 communes. Et nous avons donc monté ça dans ce but-là. Pour en plus développer l'agriculture du département, puisque nous voulons surtout que l'alimentation provienne de l'agriculture régionale et de proximité. Le plus près possible de nos cuisines. Donc, dans ce cas-là, nous avons pris une initiative de prendre quelqu'un pour nous aider à concrétiser ce but, pour avoir aussi une adéquation, ce que produit aussi le terrain, ce qu'on peut nous fournir, puisque souvent on avait des problèmes d'entente entre agriculture et besoin, quoi. On ne savait pas exactement ce que les agriculteurs du département pouvaient nous fournir et ce que nous, on avait besoin. Donc on a fait une étude et ensuite on a pris quelqu'un pour un peu l'interface et dans le but terminal de faire un approvisionnement commun.
Monsieur Fauconnier, sénateur et maire de Saint-Affrique, est l'un des initiateurs de cette association.
L'idée générale aujourd'hui, c'est il y a un grand travail sur le problème des circuits courts. C'est à la mode, vous savez, les circuits courts, tout le monde en parle. Et nous, on a essayé de pas faire qu'en parler, on a essayé de faire réellement. Donc l'objectif, c'est ce qu'a dit Solange, c'est de mettre en adéquation les capacités de production d'un territoire avec ses capacités de consommation. Et de faire en sorte que, ça s'est frappé de bon sens, qu'on puisse, quand on a besoin de produits, de les prendre plutôt près de chez soi, parce que c'est conforme aussi à l'avenir, hein, c'est d'éviter des. Vous connaissez les problèmes de CO2, etc. Bon, là, très concrètement, on a mis en œuvre une politique, et c'est assez exemplaire au niveau national d'ailleurs. Il y a peu de collectivités au niveau d'un département qui se soit structuré de cette façon et qui s'en soit donné les moyens. Voilà.
Pour Saint-Affrique même, les repas proposés par l'association Solitaire concernent avant tout les cantines scolaires, les personnes âgées qui se font livrer les repas à leur domicile, le foyer de logement et l'hôpital de jour. Une initiative hors pair apparemment. Pourtant, 3 ans après sa création, si de nombreux repas sont livrés, peu de producteurs locaux sont encore concernés. Solange Lepage nous en explique les raisons.
Pour le moment, c'est très réduit. Ça démarre. On a rencontré les agriculteurs avec le parc pour voir ce qu'ils pourraient produire. Donc c'est en train, c'est en cours. Voilà. Et pour le moment, nos cantines fonctionnent. On a lancé certains produits qu'on va acheter tous les 6 ensemble. Surtout des produits de première nécessité comme les pâtes, la viande et le riz, tout ça. Mais très petit et les lentilles, donc il n'y a pas encore, ça débute. Mais nous, ici, déjà, à la restauration scolaire, on veille à la qualité et employer le plus possible de bio.
Là encore, M. Fauconnier renchérit.
La difficulté que l'on a, il faut bien comprendre, c'est une révolution, puisque on a les marchés publics qui sont structurés de telle façon, on est contraint par des réglementations, il a fallu, pas les contourner, mais adapter ces marchés pour qu'on se tienne dans le cadre de la loi. Donc on a mis un groupement de marchés de commandes entre les six collectivités avec un appel d'offres commun par rapport aux différents produits qu'a indiqué Solange, hein, et c'est un début, je pense que l'objectif, c'est à terme, tout ce qui est proche de nous et que tous les produits qui sont à capacité d'être produits près des lieux de consommation, nous aurons la possibilité sur le plan légal de les commander.
Une révolution selon les mots de notre maire, et pourtant ce système de mise en place d'une nourriture locale et de qualité au service des établissements a déjà vu le jour dans plusieurs autres communes en France.
L'idée générale, c'est que le premier maillon, c'est le consommateur. Hein. Dis-moi comment tu consommes, je te dirai quelle agriculture tu génères. Hein. Donc, logiquement, si on est dans cette démarche-là, on va avoir, mais ça c'est pas immédiatement, on va avoir dans les mois, dans les années à venir, l'obligation de se préoccuper de l'installation, hein, à côté d'autres, parce que c'est pas la vocation de la collectivité d'aller installer les agriculteurs. Par contre, de leur dire, si vous vous installez dans telle production, etc., nous on sera en capacité avec les différentes collectivités qu'a présenté Solange, Millau, Rodez, qui sont quand même, ça fait des milliers, des dizaines de milliers de repas, hein, et des tonnes de produits. Hein, on sera en capacité de vous acheter à vous, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour monter un projet professionnel.
Si le premier maillon est le consommateur, l'autre maillon tout aussi essentiel est bien sûr le producteur. Vous avez pu entendre M. Fauconnier, sénateur et maire de Sainte-Afrique, également l'un des initiateurs de ce projet, ainsi que Mme Solange Lepage, responsable de l'association Solitaire sur Sainte-Afrique. Nous verrons donc ce qui sera mis en place dans quelques mois, quelques années, en termes de production locale sur le territoire. À l'heure actuelle, l'association Solitaire, qui regroupe 6 communes d'Aveyron, a principalement mis en place un système de commandes groupées de lentilles, de pâtes et de riz. Rappelons que l'objectif de cette association est de fournir des repas de qualité et sassement biologique et locale, afin de favoriser les circuits courts. La question se pose donc quant à la production d'agriculteurs locaux, apparemment peu nombreux. Ne faudrait-il pas que ces communes se préoccupent davantage de l'installation d'agriculteurs? Des pistes sont envisagées sur Sainte-Afrique. C'est ce que nous verrons demain dans la chemise à rayures, où M. Fauconnet fera le point sur le projet de la couveuse maraîchère.
Nous sommes donc une civilisation supérieure, il est donc tout naturel que nous sauvions le monde. Bienvenue dans la tripounale génétiquement modifiée de Chloé.
La tripounale azimutée.
La tripounale attribuée.
La tripounale azimutée.
La tripounale azimutée.
Mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es tout doux, t'es géant, t'es tout fou. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Des bisous partout.
Au fait, t'as des nouvelles de Fred?
Non, mais si ça continue comme ça, il va louper le début de l'émission.
Ouais, bah moi aujourd'hui, les amis, corvée de patates. C'est drôlement long à faire les frites. Hey, vous savez ce qui serait bien? C'est que ça pousse déjà tout près, les frites.
Ah ben, ce qu'ils voudraient, c'est un arbre à frites.
Ah bah ben avec les OGM, les organismes génétiquement modifiés, c'est peut-être possible.
Pour détruire les vivaces, Roundup, c'est l'idéal. Ça agit très vite et une semaine après, je peux préparer ma terre et semer. Et en plus, Roundup, ça ne laisse pas de résidus dans le sol.
Roundup de Monsanto. Ensemble, défendons votre terre.
Les écologistes, ils sont contre le nucléaire, ils sont contre les OGM, ce qui est l'avenir de l'agriculture, l'avenir de l'agriculture, l'avenir de l'agriculture.
Je voudrais m'adresser à vous qui me regardez, vous qui doutez des OGM. Vous avez raison, mais laissez-moi vous expliquer. Sur un champ comme celui-là, un champ où vous avez peut-être connu vos premiers émois amoureux, un champ qui appartient peut-être à un être cher, Un champ où vous avez peut-être vu gambader un fond ou une biche heureuse. Eh bien, ce champ, grâce aux OGM, peut nourrir 50 000 petits Africains orphelins qui pleurent seuls dans la nuit. Vous ne laisserez pas des enfants mourir le ventre vide, n'est-ce pas? Regardez le flambé des prix du blé et du riz qui provoquent des émeutes de la faim partout dans le monde. Avec des OGM, terminez les émeutes de la faim. Terminez aussi le réchauffement de la planète, rien qu'en achetant des OGM. On pourrait stopper les guerres et faire pousser des fleurs, faire tomber la pluie dans les régions où les gens en manquent cruellement, ou bien au contraire, faire apparaître le soleil là où il est trop rarement présent. Les OGM, c'est l'essence gratuite à vie. C'est la disparition des impôts, de l'interdiction de boire au volant, de fumer dans les lieux publics. Avec un grain de maïs OGM, on pourrait faire revivre votre petit château mort. Grâce aux OGM, vous deviendrez propriétaire de la maison de vos rêves avec piscine. Les enfants ne seront plus obligés de couper la viande et il y aura des frites. Alors, vous écoutez encore ces militants anti-OGM qui veulent vous voir malades et pauvres, qui ne désirent qu'une chose, la disparition de toute vie sur Terre, et qui, au fond d'eux, sont jaloux du bonheur.
Les OGM. Alors, on parle du maïs et des multinationales. C'est pas ça le problème des OGM. Aujourd'hui, on fabrique des maïs qui consomment un tiers d'eau de moins que le maïs ordinaire. On commence à fabriquer des espèces qui vont consommer moins d'engrais, etc. C'est ça le futur. Et aujourd'hui, qui s'interroge sur les OGM? Vous savez qui s'interroge sur les OGM?
Tout le monde.
Non. Les Européens. Les Européens, ni les Américains, ni les Chinois, ni les Brésiliens, ni les Argentins, ni les Indiens s'interrogent.
L'agriculture transgénique, une expérience à l'échelle mondiale sur l'homme, l'animal et la nature. Les cultures de soja, de maïs, de coton ou de colza génétiquement modifiées ont des implications considérables.
OGM, la cohabitation serait possible?
Eh bien, écoutez, c'est en tout cas l'avis du Haut Conseil pour les biotechnologies. Mais c'est un avis très vague, en fait, parce qu'il ne fixe pas de distance de sécurité entre culture OGM et non OGM. Il renvoie les semences, en quelque sorte, dans le camp des professionnels. Les agriculteurs doivent se débrouiller entre eux pour adopter des règles de cohabitation. Écoutez, Christine Noiville, c'est la présidente du comité éthique et social du Haut Conseil pour les biotechnologies.
Aujourd'hui, on va vous dire, par arrêté, si vous voulez faire du maïs transgénique, il faudra que vous assuriez une distance de tant de mètres, ou de tant de dizaines ou de centaines de mètres, avec la production du voisin, avec le champ du voisin. Bon, très bien. Dans certains cas, ça pourra être extrêmement compliqué parce que vos voisins voudront cultiver bio, sans OGM, avec des seuils requis pour leur production qui sont extrêmement bas. Par conséquent, si on arrive à trouver des solutions où les gens négocient entre eux pour qu'un agriculteur OGM se mette en bout de zone, tandis que l'agriculteur qui veut continuer à faire du bio se mette à l'autre bout de la zone, et entre les deux, il y a un agriculteur qui continue à faire du conventionnel et qui s'en fiche un peu finalement de devoir vendre une production qui est qui a des traces d'OGM au-delà du seuil requis, eh bien on arrive à trouver des arrangements. C'est ce qui s'est fait au Portugal et il n'y a pas de raison que sur le terrain on ne puisse pas trouver des accords comme ça en bonne intelligence.
Voilà, donc sortez les avirons, c'est de la brasse coulée.
C'est quand même une préoccupation des Français, l'environnement, l'écologie.
Mais non.
Roundup, au prix où il est maintenant, je m'en sers partout, même autour de la ferme. C'est vraiment bien.
Roundup de Monsanto. Ensemble, défendons votre terre. Ensemble, défendons votre terre.
Moi, à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil, t'es toutou, t'es géant, t'es tout fou. Un bisou sur la joue, un bisou.
À Alors, il n'y aura pas eu de Dalida, il n'y aura pas eu de Claude François cette semaine, ni de Joe Dassin, et encore moins de Mike Brandt, mais des bisounours. Merci à Chloé, si elle nous écoute, depuis Nantes, la ville où il pleut tout le temps. Moi, j'ai choisi pour terminer cette émission un petit morceau de Huachaclan, un voyage autour de la Méditerranée. Je sais, Elsa de Cour, que ça te fait plaisir. Huachaclan, c'est extrait de l'album Diaspora Hi-Fi qui nous emmène faire un petit tour autour de la Méditerranée. Je vous le conseille, il faudrait peut-être que je le conseille à Lionel, je suis sûre qu'il doit l'avoir pour Bass Travel, enfin je lui demanderai. Bah écoutez, c'est terminé, mais oui, on se retrouve demain à 10h10 et à 17h10 en rediffusion. Dans cette émission, vous avez pu entendre les choux et les fadaises d'Elsa Gourmand. Dans la chemise à rayures d'Elsa de Cour, Solange Lepage et Alain Fauconnier vous ont parlé de l'association Solitaire. La Tripounale Azimutée était aujourd'hui consacrée aux OGM. Elle était signée Chloé Baudry. Côté musique, Cloudman, extrait du nouvel album du Dionysos qui sortira le mois prochain. Ne faites pas comme moi, n'allez pas sur internet en pensant que ça y est, il est sorti. Non, non, faut attendre le mois de mars. On a eu l'Orchestre National de Barbès, ça c'est bon. L'album est sorti, c'est un des albums de la semaine. Et donc, Kulu de Wetchaklan. Merci à Philippe qui, malgré le froid et le réveil matinal, a su faire preuve d'un professionnalisme sans égal, digne de notre civilisation brillantissime. Merci aux deux, Elsa. Bonne journée à toutes et à tous.